Ça. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, que transmettre à nos enfants? Ça peut être une langue, une religion, des contes, des chants, de la cuisine. Mais finalement, qui ne s'est pas posé cette question un jour? Et dans l'autre sens, que nous ont transmis nos parents? Dans un monde de plus en plus métissé, mondialisé, comment faire en sorte finalement que les enfants sachent d'où ils viennent? Devons-nous craindre de perdre nos racines? Et pourquoi finalement, même au sein des familles monoculturelles, la question de l'identité est devenue aussi prégnante? Nous allons en discuter avec vous, Evelyne Ribert, sociologue à l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain. Bonjour.
Bonjour.
Votre laboratoire appartient au CNRS EHESS. Et vous avez publié il y a quelques années « Liberté, égalité, carte d'identité, les jeunes issus de l'immigration » et l'appartenance nationale. J'ai sollicité aussi pour cette émission, et j'en suis très heureuse, une très proche voisine. Bonjour Yasmine Chouaki.
Bonjour Emmanuel.
C'est sympa de se retrouver aussi à l'antenne et pas seulement dans les couloirs. Tout le monde connaît votre émission sur RFI, en sol majeur, deux fois par semaine. Des invités qui livrent leur histoire personnelle, familiale, et sur ces liens aussi qui les rattache ou attache, je ne sais pas, à un sol plutôt qu'à un autre. Mais à l'heure où certains vivent dans les avions, la question devient complexe. Hein. D'où je viens?
Oui, et encore, on transporte toujours des mystères autour de ces questions de sol, de sang aussi.
Y compris dans une soute à bagages. Réveille à 6h dans un lit d'hôtel, où suis-je, qui suis-je? Ça aussi, ça peut arriver.
Grande question.
Nous serons également en ligne avec Sophie Ekwe, journaliste franco-togolaise, spécialiste de la littérature en Afrique et écrivain. Elle aussi, d'ailleurs, a beaucoup parlé sur RFI. Elle est en ce moment à Atakpamé, dans le centre du Togo, précisément, à 200 km de Lomé, pour la caravane du livre. Et quant à vous, les voisins et les voisines, la discussion commence dès maintenant. Appelez-nous pour nous raconter ce que vous avez reçu en héritage ou ce que vous souhaitez transmettre au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr aussi vos commentaires sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et puis en fin d'émission, Alice Milo poursuit son reportage hebdomadaire Paroles d'enfants et d'adolescents sur l'actu et la campagne présidentielle en France. Dans ce monde devenu un peu dingue, finalement ils sont très calmes eux. Et aujourd'hui avec eux, il sera question du président américain Donald Trump et de la diplomatie française. Vous allez voir, ça nous réserve aussi quelques surprises. Ils ont 14 ans seulement. Voilà, je vous redonne le numéro de téléphone du standard que transmettent à nos enfants, 33 1 84 22 71 71. Je vous lis des commentaires, bien sûr, postés sur les réseaux sociaux, que vous pouvez vous aussi commenter. Diaby à Bamako nous dit « Je ne veux pas trahir mes parents qui m'ont élevé musulman. Je souhaite donc transmettre cette partie de ma culture à ma progéniture. Je veux lui enseigner l'honnêteté de ma religion, le respect des personnes âgées, la justice, la rigueur dans le travail que j'ai appris jeune. »
Ne pas trahir, ça c'est quand même un postulat de départ très, très violent.
Oui, une exigence trop forte,
peut-être,
trop lourde.
Peut-être.
On y reviendra.
La trahison apporte des belles choses.
En tout cas, c'est un mot fort, hein, ne pas trahir.
Il faut peut-être choisir un autre mot. C'est une question de vocabulaire, je crois.
Christian, à Goma, à l'est de la RDC. Mes parents m'ont transmis la langue locale, mais moi je trouve que c'est trop peu. Je veux transmettre la danse à mes enfants, car ça fait partie de mon identité. Et ça m'a permis d'en connaître plus sur mes origines. Néné à Abidjan, très sincèrement, je veux que mes enfants pratiquent la même religion que moi. Je leur parlerai aussi en langue locale pour qu'ils ne soient pas perdus. Et c'est grâce à ça qu'ils pourront comprendre leurs coutumes, leur culture. Je souhaite aussi qu'ils voyagent, qu'ils dansent, qu'ils écoutent les musiques du monde. Je veux qu'ils choisissent les cultures qui les intéressent.
Je me demande si ça se décide en fait de transmettre par une volonté comme ça, une autorité parentale.
Disons que dans la transmission, il y a quand même aussi ce qui est reçu par les enfants, ce qu'ils veulent prendre en héritage ou pas, je veux dire, les métissages qui peuvent avoir lieu sur place, les influences, le monde qui bouge, etc. Et tout ça, ça interfère nécessairement dans ce qui est transmis, dans le résultat, etc. Et on peut tout à fait...
Ça fait une sauce rudement complexe. Hein.
On peut transmettre un ensemble de choses tout en y restant fidèle, et bien qu'il y ait un certain nombre de transformations quand même de fait. Quoi.
Il y a ce message aussi de Malika qui ne nous dit pas d'où elle vient. Ma fille est curieuse d'apprendre ma culture musulmane et la langue arabe, nous dit Malika. Elle souhaite aussi apprendre le turc, mais je n'ai rien fait pour cela. Cette idée vient d'elle-même. Elle se crée sa propre culture. C'est exactement ça.
Ça, c'est intéressant parce que elle adopte le point de vue de sa fille.
Oui, tout à fait.
La démarche est complètement différente.
Vous avez raison. Ouais. Nos enfants ne sont pas nos enfants, hein, pour reprendre le fameux poète Khalil Gibran. Loubna, à Conakry, en Guinée, issue de parents libanais, née au Sénégal, élevée en Guinée, nous dit cette voisine, Loubna. Je me suis toujours sentie comme une citoyenne du monde. À la maison, les maîtres mots étaient respect, tolérance, partage. Aujourd'hui, je suis mariée à un Québécois. Mes deux filles sont loin de grandir dans une culture précise. Elles vivent leur métissage comme une grande richesse. Elles se sentent autant citoyennes du monde que moi. Cette diversité, elles la partagent avec bonheur. Ça, c'est une cliente pour vous.
Oui, hein, c'est une belle géographie identitaire, quand elle veut.
Jackie, Atana, il n'y a rien de meilleur que la sagesse. À Madagascar, je veux que mes progénitures connaissent les langues du pays. Ce sera leur seule voie vers un bon métier. Voilà. Allez, appelez-nous maintenant, on a envie de discuter de vive voix avec vous. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins et la planète se parle.
Evelyne Ribert, nous vivons tout de même dans un monde aujourd'hui dominé par une forme d'inquiétude, même si probablement au sud, les voisins ont davantage la certitude que la vie de leurs enfants sera meilleure. C'est pas le cas dans la vieille Europe. Cette inquiétude, est-ce que finalement elle est de nature à s'interroger sur nos racines culturelles ou plutôt à se dire, oh, vite, il faut sécuriser un avenir uniquement matériel pour nos enfants ?
Je pense qu'il y a chez certains une inquiétude sur des racines, effectivement, sur la transmission de valeurs, des choses qui paraissent importantes, dont ils peuvent avoir le sentiment qu'elles sont menacées. Oui, je pense que certainement ça peut jouer, quoi.
Vous avez tout de suite parlé de menaces.
Parce que je pense que des gens perçoivent les choses en ces termes-là.
Et en même temps, est-ce qu'il faut être riche et éduqué pour s'interroger sur une forme d'inutile, une forme de symbole, tout de même, d'où je viens ?
Non, pas du tout. C'est quelque chose de très universel, je pense. Mais après, je pense que les formes que ça peut prendre sont extrêmement diverses et que ça se décline pas forcément en termes de racines, d'interrogations sur la transmission. Je veux dire, ça peut être tout simplement des pratiques, des usages qu'on transmet naturellement dans le quotidien, à travers ce qu'on fait et auxquels les enfants assistent.
C'est ça. Ça peut arriver à n'importe quelle heure de la journée.
Oui, non. J'ai l'impression que ça démarre ce genre d'interrogation identitaire quand on commence à chercher sa place dans un arbre généalogique, dans une société, dans un récit national.
Sous-entendu, quand il y a un problème.
Ok, quand il y a un problème, oui.
Ah oui.
Ah bah oui, quand il n'y a pas de problème, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas sur cette question, mais il n'y aura pas de quête, ça ne sera pas la même démarche. Hein.
Donc, retracer une histoire migratoire, une histoire culturelle, ce n'est pas un luxe, mais c'est la réponse à un problème.
Mm-hmm. Je le sens comme ça, non ?
Alors, disons... Moi, je suis pas certaine que les populations qui migrent aient le besoin de retracer cette histoire. Après qu'elles aient besoin de transmettre un certain nombre de choses, la langue par exemple, pour certaines, pas pour d'autres, la religion pour certaines, des pratiques culinaires, la musique, de la danse, différentes pratiques, oui. Après, les formes peuvent être, à mon avis, extrêmement variables.
C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui est dans un pays en guerre, évidemment, il ne va pas se poser la question de savoir qui il est. Il veut vivre, simplement survivre, etc. Mais par contre, le frottement de sa vie ailleurs, le frottement vis-à-vis de l'autre, dans ce qu'on va appeler l'altérité, là peut commencer à produire des questions, des interrogations sur l'identité.
Mais il peut y avoir aussi la volonté de transmettre, pour certains, dans certaines situations, des idéaux politiques. C'est peut-être ça qui prédomine par rapport à des choses perçues comme davantage culturelles et pas forcément, en tout cas, un récit migratoire en tant que tel. Mmh. Je veux dire, ça peut être vraiment ou des valeurs, la valeur de l'éducation, la valeur, ce que disait l'un des auditeurs, je veux dire, des valeurs diverses qui sont l'essentiel plus que des éléments.
Ouais. C'est toujours en même temps étonnant quand on est, par exemple, dans une salle de classe, dans un quartier ghetto ou avec peu de mixité sociale, pour parler politiquement correct, où vous avez 80% des élèves qui sont peut-être né en France, mais avec des origines étrangères directes juste au-dessus de leur tête, c'est-à-dire au niveau de leurs parents. Ils ont souvent peu de choses à raconter sur ces origines-là, parce qu'on en a peu parlé à la maison.
Alors, je pense qu'il y a, plusieurs choses à distinguer. C'est-à-dire, il y a effectivement des parents qui ne souhaitent pas en parler, pour différentes raisons, parce que ça peut être des choses qui sont douloureuses et qu'on ne souhaite pas rouvrir les plaies, transmettre des éléments difficiles aux enfants. Il y a aussi des personnes qui, à contrario, considèrent que c'est quelque chose qui n'est pas si important que ça mérite d'en parler spécifiquement et que après tout c'est un déplacement comme un autre, etc. Et puis je pense qu'il y a aussi un effet d'âge qui est très important, c'est-à-dire que je pense que les jeunes, quand ils sont jeunes, adolescents, etc., c'est pas le moment où ils s'intéressent à ces choses-là, et que ces choses-là intéressent peut-être davantage quand on est entré dans la vie active, quand on a fondé une famille, quand on a plus de 30 ans, quand les parents viennent à... Voilà, des effets de cycle de vie, et qu'il y a vraiment un effet d'âge qui est extrêmement important à prendre en compte quand on réfléchit à tout ça.
Oui, en même temps, si je fais une petite parenthèse personnelle, Emmanuel. Moi, j'ai des origines algériennes, je suis mariée à un Algérien, on est en France depuis 20 ans et on a des enfants donc, qui sont dans le 9-3, en banlieue, France. Donc la mixité, ils connaissent bien. À table, il y a effectivement une discussion, on va dire, littéraire sur l'Algérie et qui n'est pas vraiment incarnée ni à travers la langue. Moi, je ne parle pas du tout l'arabe, et le papa, je ne sais pas si on parlera de cette question de la langue, mais le papa, qui lui est arabophone complètement, berbérophone et francophone, évidemment, n'a pas transmis l'arabe parce que pour lui, la langue, elle est forcément maternelle. Donc, on a des enfants qui sont complètement français, des pieds à la tête, qui baignent dans une culture française avec, autour de la table, des éléments de l'histoire de l'Algérie, etc. Mais quand ils sont dans la cour de récré, d'ailleurs c'est très drôle, le garçon et la fille ne réagissent pas du tout de la même manière. En tout cas, notre fille, elle est dans un effet d'adolescence qui veut ressembler aux autres. Elle n'a pas du tout de problème d'identité, en tout cas ça n'a pas été repéré comme tel. Mais dans la cour de récré, pour faire comme le copain qui s'appelle Mohamed, etc., elle va s'inventer une espèce de petite mythologie par rapport au bled, pour être comme les autres.
Donc bien au-delà d'une mythologie familiale.
Carrément.
Finalement. Et pas son frère.
Et pas son frère, on ne sait pas ce qu'il en fait, il a 21 ans aujourd'hui. Non, il est à distance, il a bien reçu 5 sur 5 un discours quand même très désespéré sur l'Algérie. Il a vu pour la première fois l'Algérie il y a 2 ans, donc c'est vous dire si on ne s'est pas précipité sur le pays d'origine. Et il en est revenu avec, un cœur absolu, c'est-à-dire ça ne sera pas l'Algérie, son Eldorado. Pour l'instant, à 21 ans, c'est son discours, mais ça peut évidemment tellement se transformer.
Alors chacun, on l'a compris, fait sa cuisine. Et bien sûr, vous nous appelez pour nous raconter votre propre cuisine culturelle et familiale et comment ce que vous avez reçu en héritage et ce que vous avez envie de transmettre à vos enfants. 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons une voisine qui nous appelle de Dakar, c'est bien cela, Fatima ?
Oui, Emmanuel, bonjour.
Bonjour Fatima, soyez la bienvenue. Vous êtes sénégalaise, de parents sénégalais.
Oui, je suis sénégalaise, je suis d'une ville pas loin de Dakar.
Donc monoculture, mais c'est pas une tare, hein, je vous rassure. Alors, il y a eu beaucoup de messages sur notre fil Facebook sur la religion. Vous souhaitiez nous parler d'autres choses que vos parents vous ont transmis ?
Effectivement, Emmanuel, je vois qu'il y a pas mal de messages sur la transmission de la religion. Moi, j'aimerais aborder vraiment un autre sujet. Je vois qu'il y a pas mal de messages sur la page Facebook à propos de la religion.
Oui, oui. On vous entend bien, Fatima. Hein, vous êtes bien en direct chez 7 milliards.
Oui, d'accord. Et j'aimerais vraiment vous faire part d'une anecdote de mon enfance. Mes parents, particulièrement ma mère, quand il y avait des coupures d'électricité chez nous, elle nous faisait chanter, on dansait à la pleine lune, on jouait aux ondes chinoises. Et je pense que ce sont les meilleurs souvenirs de mon enfance. Aujourd'hui, s'il y a coupure, nous pensons immédiatement à nos écrans, à nos téléphones, à l'ordi, à l'Internet. Et quand l'électricité revient, et on se rend compte qu'on a mis discuté, on n'a pas échangé, on n'a pas parlé. Et c'est comme si le monde s'était arrêté de tourner du seul fait qu'il n'y avait pas d'électricité. Et de ma part, j'aimerais transmettre cette culture à mes enfants. J'aimerais transmettre cette culture du dialogue, cette culture de la réalité, cette façon de prendre la vie telle qu'elle est. Avoir attention, même dans la plus sombre des pénombres.
Oui.
Je pense que c'est la seule valeur, en fait.
Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a toujours des coupures d'électricité, mais la pénombre ne suffit pas à la transmission, finalement.
Oui, mais moi, ce que j'entends dans ce témoignage très joli, c'est un attachement à un pays qui s'appelle le pays de l'enfance. Donc, je crois que c'est fou, quoi. C'est la force Hein, c'est vraiment la force de ce premier territoire qui est celui de l'enfance. Quelquefois, peu importe ce qu'il y a sur ce territoire, on y revient avec nostalgie.
Oui, mais en même temps, Fatima pose un problème réel qui est comment transmettre, forcément avec de la parole, hein, avec des gestes et des moments dédiés à cela. Christine Ribert, Evelyne Ribert, pardon.
Alors, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a différentes façons de faire et que je veux dire, il s'agit peut-être d'essayer de mettre des choses en place, etc. Mais donc, vous disiez que vous vouliez transmettre ça. Est-ce que vous avez essayé de transmettre ces jeux autour des ombres chinoises? Est-ce que vous avez
Fatima, oui, parce que finalement, vous nous dites qu'aujourd'hui, vous ne trouvez plus l'interstice pour cette transmission.
J'ai pas encore d'enfant. Je fais des études. Oui. Donc, je me dis que, au-delà même de ce pays d'enfance, il y a des choses essentielles dans la vie qui est le partage, la communication. Mmh. Et c'est ce qu'on ne voit plus maintenant. Les gens n'ont plus le temps de parler. On ne discute plus. Chacun est occupé à voir ses messages sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, à entretenir son propre ego.
Oui.
Il n'y a plus de famille.
Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là quand même?
Oui, voilà.
Fatima, il ne faut pas désespérer comme ça.
Moi qui suis, qui ai un âge canonique, donc effectivement, je me bats comme vous allez vous battre vous-même, avec ces histoires, il y a un bras de fer, quoi, avec tous ces outils. En fait, il faut passer des pactes avec les enfants. C'est-à-dire se dire, ben voilà, je vais partager avec toi qui aimes regarder je ne sais pas quoi sur Internet, des vidéos, je vais regarder pendant une heure avec toi. Et toi, tu vas pendant une heure couper ce portable parce que je vais te montrer, ce ne sera pas une vidéo, mais ce sera autre chose. C'est un pacte, il faut passer des pactes et partager avec eux et en demandant en retour qu'ils partagent avec nous.
Et puis, je pense que les enfants aiment qu'on passe du temps avec eux et qu'à partir du moment, surtout quand ils sont, a fortiori quand ils sont petits, et donc à partir du moment où vous passez du temps avec eux, où vous leur consacrez du temps dans un moment qui est joyeux, où chacun apprécie, est heureux, etc., je pense qu'ils délaisseront gentiment leurs écrans, en tout cas pendant un certain temps, quand ils sont petits, et qu'après, il leur en restera des souvenirs, quand bien même, sur le moment, certains peuvent faire valoir qu'ils veulent regarder telle émission ou telle chose.
Tatiana, merci beaucoup de nous avoir appelés. Je voudrais qu'on donne la parole à une autre auditrice qui nous appelle au 33-1, pardon, merci Fatima plutôt. Je vais passer la parole maintenant à Tatiana qui nous appelle au 33-1 84 22 71 71. Tatiana, vous êtes à Libreville au Gabon.
Tout à fait. Bonjour Emmanuel, bonjour à votre invité, bonjour à tous les auditeurs.
Nous vous écoutons, vous êtes en direct.
Donc, moi je suis métisse. J'ai grandi dans une famille de deux ethnies différentes. Je suis gabonaise. Mes parents sont deux ethnies différentes et donc c'était déjà un peu compliqué à la base pour eux. Mais bon, je suis née et ils m'ont transmis à leur manière, chacun avec leur culture, comment dire, ce qu'ils ont eu de leurs parents. Donc je suis heureuse de pouvoir être dans la famille de mon père et pouvoir entendre comment mes grands-parents, tantes et autres parlent dans le patois de mon père et de la même façon chez ma mère.
Et vous avez épousé un franco-algérien? Parce que c'était trop simple.
Voilà, c'était trop simple pour moi, en sachant également que j'ai grandi en France, à Lyon. Et quand je suis rentrée au Gabon, ça a été un peu compliqué au niveau de la culture. Parce qu'au Gabon, on respecte l'adulte, on respecte le grand. On n'a pas le droit de le regarder dans les yeux. On n'a pas le droit de répondre ou en général d'exprimer, comment dire ça, comment vous dire, qu'on n'est pas d'accord avec la vie ou etc.
Ouais, ou ses états d'âme.
Pas beaucoup décidé. Voilà.
Vous allez rester en ligne avec nous, Tatiana, mais je voudrais juste, parce qu'on va rendre l'antenne pour le flash et on va vous reprendre bien sûr juste après, je voudrais juste que vous nous disiez comment est surnommée votre famille sur place à Libreville.
C'est la famille Benetton.
D'accord, très bien, on va revenir à votre quotidien donc de famille Benetton. Que recevons-nous en héritage de nos parents, que transmettre à nos enfants? Restez avec nous également, Evelyne Ribert, Yasmine Chouaki et les voisins et les voisines, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. 7 milliards de voisins, nous revenons dans un tout petit peu plus de 3 minutes maintenant, juste après le flash sur RFI.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, que transmettre à nos enfants? Histoire familiale, langue, culture, religion. Devons-nous craindre de perdre nos racines dans les limbes de l'Internet? On en parlait avec cette auditrice Fatima qui nous appelait de Dakar et qui déplorait que malgré la pénombre due aux coupures d'électricité, le dialogue était devenu aujourd'hui finalement difficile par rapport à il y a quelques années où on en profitait pour chanter et danser. Nous en discutons avec vous, Yveline Ribert, sociologue à l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain. Vous avez publié Liberté, égalité, carte d'identité, les jeunes issus de l'immigration et l'appartenance nationale. Et vous, Yasmine Chouaki, incontournable sur le sujet tout de même, avec votre émission En sol majeur. Et bien sûr, les voisines que nous reprenons au 33 1 84 22 71 71. Bien sûr, les voisins, vous avez le droit de nous appeler, ça va de soi. Tatiana, nous étions en ligne avec vous juste avant le flash. Vous nous disiez que vos parents au Gabon étaient issus de deux ethnies différentes et que vous aviez épousé un homme franco-algérien et que votre famille était surnommée finalement la famille Benetton. C'est bien cela à Libreville?
C'est tout à fait,
oui,
ça.
Enfin, vous n'êtes pas la seule parce que vous vivez quand même sur un continent où il y a une sacrée mobilité géographique.
Tout à fait. Beaucoup, beaucoup et beaucoup de métissage, effectivement, que ce soit intra-africain ou métissage extérieur et africain, oui.
Mais en même temps, quand je vous entends, Tatiana, vous savez comment j'ai envie de vous surnommer ? L'athlète de l'identité.
Parce que,
mais oui, parce que finalement, en engrangeant comme ça foultitude de codes et de cultures, etc., on s'aperçoit en général qu'à l'intérieur de soi, on n'est pas univoque, on n'est pas une seule personne, on est multiple.
Non, du tout.
Et on peut développer à l'infini, voilà, des adhésions.
Ah oui, tout à fait.
Voilà.
Mais alors, comment ça se manifeste concrètement avec vos enfants?
Bah, écoutez, déjà, moi, je dis, je suis du monde. Donc, peu importe le pays où je me trouve, j'essaie de comprendre la culture, de m'adapter, etc. Mes enfants, eux aussi, sont issus de beaucoup de métissage. À mon mari et moi, nous avons 7 enfants. On a de toutes les couleurs, du noir, du blanc, du métis, des cheveux crépus, des cheveux très lisses.
Alors, vous empilez les cultures, vous les sélectionnez. Comment ça se passe concrètement?
En fait, je pense qu'on sélectionne ce qu'il y a de mieux, de ce qu'il y a d'important pour nous. Moi, par exemple, dans ce que j'ai reçu de ma culture africaine, c'est le respect. Le respect de l'autre, le respect de l'adulte. Moi, je pense que c'est vraiment important. J'avoue que quand je vois la télé et ce qui se passe des fois, je ne comprends plus. Et de ce que j'ai compris, ce que j'ai eu en France, c'est de pouvoir s'exprimer, de pouvoir respecter l'autre aussi, de respecter qu'il soit petit ou grand. Pour moi, ça c'est important également. Et je pense que pour mon mari, ça a été aussi le cas. Et c'est ce qu'on donne à nos enfants. Que ça vienne d'Algérie, que ça vienne du Gabon, que ça vienne de la France, on essaie de donner ce qui est important pour nous, ce dans quoi on se reconnaît.
Et comment c'est reçu, j'ai envie de vous poser cette question, Tatiana, à Libreville, ces multiples identités? Parce que moi, j'ai eu une invitée qui s'appelle Rachel Kahn. Sa mère est ashkénaze, son père est sénégambien, musulman. Donc, deux religions, trois ou quatre identités. Elle se sent 100% polonaise, 100% gambienne, 100% sénégalaise, 100% juive, 100% musulmane.
C'est ça, ça fait ça, 100%.
Athlète de l'identité, c'est bien ce que je disais. Mais la France, elle a du mal avec cette multiplicité. Comment ça se passe à Libreville pour vous?
À Libreville,
vous êtes quand même dans une ville de l'accueil, hein, parce que le Gabon est un pays peu peuplé.
Enfin, France,
donc avec
terre d'accueil aussi, paraît-il.
Moi, je vous avouerai que quand je suis partie du Gabon, je ne savais pas ce que c'était le racisme. Je ne savais pas ce qu'était la différence entre être blanc, noir, métis ou pas, parce que je ne l'ai pas ressenti dans ma famille. Je l'ai su en arrivant en France. Et après, en voyageant aux États-Unis, etc., je me suis rendu compte que j'étais différente et qu'a priori, on classe les gens par la couleur ou autre. Maintenant, ici au Gabon, comme je vous dis, tout dépend. C'est comme partout dans le monde, il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. Mais pour nous qui sommes issus de métissage, je pense qu'il ne faut pas faire de choix.
Mais est-ce que ça veut dire que vous vous voyez et vous partagez entre métissés et qui se comprennent ou pas forcément?
Ça arrive, oui. Ça arrive qu'on se retrouve entre métissés qui ne se sont pas compris par les autres. Et même, ça peut être interfamilial, où on ne comprend pas pourquoi vous êtes métisse et l'autre est noir, où la famille vous fait sentir la différence. Et c'est vrai qu'on a tendance à se rapprocher justement du fait d'être... un peu perdu parce qu'il faut s'accrocher, il faut essayer de ne pas faire le choix. Moi, je connais des amis métis qui ont choisi d'être plus françaises qu'africaines, d'autres qui ont préféré être plus africaines que françaises. Moi, je ne veux renier aucun des deux et c'est ce que je transmets à mes enfants.
Merci beaucoup, Tatiana, de nous avoir appelés. Evelyne Ribert, je voudrais aussi qu'on parle des Français qui n'ont pas de passé migratoire particulier et qu'on entend beaucoup en ce moment. Quand je dis pas de passé migratoire particulier, tout Français a un passé migratoire, ne serait-ce que du village vers la ville, hein, en général, parce que les grandes villes sont peuplées de gens qui sont arrivés autrefois des villages, mais qui sont précisément et de plus en plus à la recherche d'un socle culturel et politique.
Oui, effectivement. En tout cas, il y a chez certains des craintes, des besoins d'enracinement, de remonter. Certains, ça donne à des pratiques généalogiques, etc. De remonter pour trouver quelque chose, trouver une assurance.
Oui, c'est ça. Enfin, plus que ça, pour revendiquer.
Aussi. Non. Certains. Pas tous non plus. Tout de même pas tous, quoi.
Non, mais comment vous voyez-vous, anthropologue, sociologue, vous faites beaucoup d'études sur le terrain, la réaction face à ceux qui disent haïr la France et la réaction que ça déclenche vis-à-vis des Français?
Je pense qu'il y a pas mal de craintes, de crispations, de... C'est ça qui me paraît le plus important, le noyau, etc. Un sentiment d'être menacé, moi je reviens sur ce terme-là, qui n'est pas fondé, mais qui engendre ce genre de la fermeture, quoi.
Enfin, j'ai l'impression qu'on est dans un temps où effectivement là il y a des sables mouvants autour de ce qu'on appelle le récit national et finalement ça touche les F de souche comme on les appelle très, très vulgairement et puis ceux qui ne sont pas concernés par cette question mais qui vivent de plein fouet les tempêtes identitaires, hein. Ça déplace tout en ce moment.
Alors ceci dit, pas qu'en France, hein, ceci dit, je voudrais qu'on accueille Sophie Ekwe qui est en direct avec nous à 200 km de Lomé. Bonjour Sophie Ekwe.
Bonjour Emmanuel Bastide.
Sophie, on est ravis de vous accueillir parce que vous êtes une journaliste franco-togolaise, vous avez très longtemps collaboré à RFI. Vous êtes aujourd'hui à Atakpamé, hein, c'est bien ça, au centre du Togo.
C'est ça, centre sud du Togo, oui.
Pour la caravane du livre, vous collaborez à cette belle opération qui s'appelle la caravane du livre, hein, c'est bien cela?
C'est bien cela, c'est une idée d'un écrivain togolais qui s'appelle Kanye Alem, avec l'association des écrivains du Togo, c'est-à-dire apporter des livres dans les villages, dans les villes, dans les hameaux, apporter des histoires du monde à des populations qui n'auront pas la chance et qui n'ont pas la chance de voyager, apporter dans des petites écoles des histoires du monde, des visages, des multiples visages du monde. Et cela a commencé il y a 5 jours et on est à l'avant-dernière étape, à Tapamé, avant de finir à Lomé, la capitale, demain.
Qu'est-ce qui vous frappe le plus?
Mais c'est la joie, le regard des enfants, de voir des écrivains, de voir des livres, l'odeur de livres, de toucher les livres, d'entendre les témoignages d'écrivains du monde entier qui viennent leur dire que le livre est important, que dans les livres, il y a la rencontre de l'autre, il y a cette découverte de l'autre. Parce que quand on parle de transmission, on parle toujours de termes de transmission par rapport à nos propres cultures. La transmission aussi, pour moi, c'est aussi d'aller vers l'autre, c'est de connaître l'autre, c'est de pouvoir dialoguer avec l'autre. Il faut le connaître. Et donc, dans ces livres, écrits par des auteurs du monde entier, eh bien, ils ont pu voir un petit peu qui ne sont pas si étranges, si étrangers que cela aux autres. Il y a quelque chose ainsi qui lit le monde, c'est cette humanité. Et c'est cela que je vois dans les regards de Steph, vous les entendez là.
Oui.
On est dans un lycée en ce moment, c'est le lycée Sainte-Marie d'Afrique, à Tapamé, et c'est la joie. Et je suis sortie de l'amphi juste pour le temps de vous parler, mais j'y réponds tout à l'heure avec un enthousiasme énorme. Et oui, c'est important de distribuer le livre, de transmettre d'ailleurs, ça se fait de main en main, parce qu'on est venu avec beaucoup de livres et les élèves se disent d'ailleurs, c'est un livre, hein, parce que c'est C'est très précieux, j'allais dire.
Bon, malheureusement, la ligne téléphonique n'est pas formidable, mais on est ravis de vous avoir en tout cas en direct avec nous, Sophie Ekwe. On sent bien cette... Alors, à l'inverse des inquiétudes et des crispations à l'autre bout de la planète, on sent cette curiosité, cet enthousiasme pour découvrir d'autres cultures et puis peut-être aussi pour du coup mieux se questionner sur ses propres origines. Vous avez présenté pendant près de 20 ans des émissions sur RFI, notamment sur les littératures, évidemment avec un tropisme Afrique, et vous publiez Sagesse d'Afrique. Qu'est-ce que vous avez découvert pour écrire ce livre? Parce que vous ne prétendez pas, évidemment, connaître toutes les cultures africaines.
Non, pas du tout. C'est juste... c'est une introduction. Je dis toujours que ce livre n'est pas un fin, c'est un début. C'est une introduction, c'est tout ce que j'ai découvert pendant 25 ans et qui forge en fait une sorte de sophistication de la pensée africaine. Ce livre contient en fait une proposition autre que ce qui est, ce que l'on entend, ce que l'on voit, ce que aller au-delà de ce qui est proposé. Ouais. Donc il y a une richesse, une diversité. Et mon rêve, c'est qu'un jour, le connaisseur même devienne, par exemple, meurt et devient, qui sera autre chose. J'aimerais bien que les lycéens du monde entier puisse plancher sur des thèmes de philo de Empateba, de Tierno Bocard, des auteurs africains. Donc c'était ça un peu mon élan, dire que l'Afrique existe à travers le football, mais à travers sa grande richesse à travers la pensée et la spiritualité.
Et évidemment, c'est aussi un livre qui est destiné à des familles africaines déracinées et qui ont envie de revenir à des questions essentielles, de se reconnecter aussi avec une enfance peut-être perdue. Merci beaucoup, Sophie Ekwe, d'avoir été en ligne avec nous. Je voudrais qu'on accueille un auditeur qui nous appelle de Kuala Lumpur. Bonjour, Jacques.
Bonjour.
Vous nous appelez de fort loin, nous vous écoutons, vous avez 75 ans.
Oui, j'ai 75 ans, donc je suis un vieil intervenant pour une fois. Mes parents, ma mère d'origine des Baléares, mon père du sud de l'Espagne, tout ce monde-là émigré en Algérie au début du 20e siècle. Et moi, donc, né en Algérie et devenant français et de culture, parce qu'on va à l'école en France là-bas, l'école française. Et après ça, retour avec les événements, bien avant les événements, à l'âge de 11 ans, je reviens en France. Revenu en France, je vais à l'école en France. Une fois que j'ai fini l'école, je vais aller au service militaire. Puis après le service militaire, est-ce que je me sentais pas très bien parce qu'il y a toute cette culture derrière et moitié espagnole, moitié... Enfin, et je suis parti en Amérique latine travailler un an. Je suis revenu en France et je me suis marié avec une Française. Et à peine marié, on est reparti à Madagascar. À Madagascar, ça tout va mal dans la famille. Enfin, on divorce. Et je reste à Madagascar, je me marie avec une malgache. Après ça, je vais en Afrique. Je reste 6 ans au Mali. Je reste un an en Mauritanie. Je pars après la Malaisie.
Ouais.
Je connais une autre femme et je épouse une femme chinoise de Malaisie. Bon, c'est pour
d'accord.
Vous dire.
Et donc maintenant, vous vivez dans la capitale malaise.
Je vais à la caméra. Les auditeurs vont dire que je ne suis pas très sérieux, d'accord, j'admets. Mais enfin, vous savez, c'est quand
vous êtes
on voyage,
très amoureux,
souvent,
simplement.
Des tas de trucs.
Yasmine Chouaki, bon, vous l'avez entendu, il vous dit que vous êtes très amoureux.
Alors, vous êtes dans la culture du nomadisme, on va dire.
Voilà, et puis alors, ce qu'il fait maintenant, mon propos, en fait, c'est ça. Maintenant, je ne sais plus où aller. Je ne sais plus à qui je vais partir. Alors, je vous disais, j'aime Léo Ferré et Jacques Brel. Mais si je n'ai pas de pain et d'huile d'olive, je ne peux pas survivre.
Mais alors vous êtes perdu vous-même ou pas, finalement?
Je me suis perdu moi-même, oui, en quelque sorte, parce que je n'ai pas fait attention, mais maintenant j'ai le temps de faire le bilan et de me dire, bon, où est-ce que je suis, où est-ce que je vais? L'Espagne, ça ne me dit plus rien. La France, je vais là-bas, puis je ne reconnais personne, je n'aime plus. Alors des fois, je vais à Madagascar, le pays dans un état épouvantable, vous savez, mais j'aime bien.
C'est-à-dire puis, qu'en fait, le voyage, Jacques, pour vous, doit continuer. Vous ne pouvez que voyager.
Le voyage ou l'errance, d'ailleurs?
L'errance. Oui.
C'est dur. C'est dur en même temps, ce que vous nous dites.
Oui, c'est dur. Parce que je ne me vois pas me mettre dans un endroit... Écoutez, c'est curieux, c'est paradoxal. Le seul endroit où un peu je me sens des fois pas mal, c'est Madagascar.
Enfin, un peu de Jacques Brel et un peu d'huile d'olive, et c'est déjà à la maison.
Oui.
Bon, en tout cas, il vous faut une escale chez Yasmine Chouaki un jour, dans le studio RFI.
Oui.
Merci beaucoup. C'est une belle histoire et en même temps, c'est une histoire empreinte d'une certaine souffrance, hein, on le comprend. Mais peut-être qu'il faudrait écrire tout simplement le roman de votre vie pour votre progéniture, votre descendance.
C'est une bonne idée. Hein, je vais piocher là-dedans.
Voilà, ça recollerait un peu tous les morceaux et ça, le puzzle pourrait se terminer par une belle carte de géographie. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Nous devrions bientôt avoir Jean qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Moi, je me pose souvent une question, je la pose à vous, Evelyne Ribert et Yasmine Chouaki, pour pouvoir avoir accès physiquement au lieu de son enfance, c'est-à-dire retrouver des paysages, retrouver des odeurs. Est-ce que c'est quelque chose qui revient souvent dans les témoignages de personnes qui ont connu des parcours migratoires compliqués, Evelyne Ribert?
Oui, je pense que c'est un élément qui est important. C'est-à-dire qu'il y a un attachement, effectivement, à des lieux, à des odeurs, à des petites choses qui tout de suite sont des choses qu'on identifie très bien et qui sont importantes, quoi.
Oui, c'est un lieu fondateur. Par sa présence ou par son absence, d'ailleurs.
Parce qu'on ne peut pas forcément y retourner, pour diverses raisons, d'ailleurs. Chez vos invités, c'est toujours un passage obligé dans les histoires qu'ils racontent.
Absolument, oui, parce que c'est en creux, comme on dit en littérature, c'est là que vont se cristalliser le récit familial ou le récit intime.
Le lieu géographique.
Absolument, mais j'ai en mémoire Leïla Shahid, ancienne ambassadrice de l'OLP, qui a un arbre en Palestine, qui a appartenu à son grand-père, qui a été maire de Jaffa en Palestine. Donc cet arbre sous lequel elle n'a pas grandi, sous lequel elle n'a pas couru, fait malgré tout partie de sa géographie intime. Et quand elle raconte son histoire, elle ne manque pas de passer par cet arbre de Jaffa.
Donc mais une géographie reconstituée, là, pour le coup, une géographie virtuelle. Ce n'est pas un vrai lieu de l'enfance.
Oui, mais qu'est-ce qu'un vrai... Enfin, on est fait de récits incarnés ou pas.
Et toute l'histoire, les mythologies qu'on s'est bricolées soi-même.
Absolument. Et toute l'histoire, quand j'entends Jacques, avec cette errance, comme vous dites, Emmanuel, en pointillé, toute son histoire va être pour lui de trouver du sens à cette errance. Mais ça, c'est les psys qui parlent comme ça. Et je pense d'ailleurs à un invité que j'avais eu qui s'appelle Ali Magoudi, qui est un psychanalyste français, maman polonaise qui a épousé un Algérien au moment des événements, ce qu'on appelait les événements, c'est-à-dire la guerre d'Algérie. Lui, il a construit son histoire et sans doute sa casquette de psy sur le silence du père, parce que ça aussi, les silences des pères sont fondateurs de quelque chose.
Nous accueillons Awa qui nous appelle de Bamako, 33 1 84 22 71 71. Bonjour Awa.
Oui, bonjour Emmanuel.
Nous vous écoutons.
Oui, j'appelle Bamako. Donc moi mon souci, c'est que étant donné que j'ai pas été élevée par mes parents, ce qui arrive plus souvent dans les familles africaines ici, et donc, j'ai connu ma mère bien plus tard. Et donc, j'ai pas connu mon père. Et donc, j'ai adopté un petit garçon qui a aujourd'hui 5 ans. Quand je le regarde, je sais pas, je me demande souvent qu'est-ce que je peux lui transmettre, étant donné que moi-même, je ne sais pas d'où est-ce que je viens exactement. Donc, ça me fait peur. J'y pense très souvent. Je suis très perturbée par ça. J'essaie de mener des recherches pour savoir d'où est-ce que je viens exactement. Sur mes papiers, je suis malien. Et la maman, je pense bien que c'est la bonne. Mais bon, c'est un peu compliqué pour moi. Voilà.
Vous avez peur de ne rien transmettre ou de transmettre un vide qui pourrait se transformer en inquiétude pour votre enfant.
Voilà. Quand il va me poser la question d'où est-ce que je viens, je ne sais pas quoi lui répondre. Donc ça me fait très très peur.
C'est terrible parce que votre histoire me renvoie au Cambodge et à la période de Khmer Rouge. J'ai reçu souvent des gens qui témoignaient vous savez que l'ANCAR, cette organisation des Khmer Rouge, interdisait aux enfants, aux familles, entre 70 et 75, de prononcer le mot de papa ou de maman. Donc pour se construire une identité familiale, là c'est... Vous êtes condamnée, si j'ose dire, mais je le dis très positivement, à être créatrice vous-même. Vous êtes une pionnière de votre propre récit. Et il va falloir que vous trouviez vous-même vos propres petits cailloux. Mmh. Pour et tisser
puis,
des
et,
liens.
Et puis, oui. On l'a entendu avec d'autres témoignages, hein, qui sont pas simples non plus et qui arrivent à bricoler une mythologie familiale, mais bricolage surtout pas avec une surtout pas chargée de notions péjoratives, hein, je crois. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Awa. On arrive bientôt au terme de cette émission parce que j'annonçais un tout autre sujet au début de l'émission, encore que tout autre, pas tant que ça, tout autre, mais vous vous souvenez, j'avais dit au début de l'émission qu'Alice Milo poursuivait son reportage hebdomadaire et je voudrais que nous puissions maintenant laisser la parole à des enfants, à des adolescents, enfin adolescents, enfants, 14 ans, je ne sais pas dans quel monde
bonne
sommes-nous
chance,
à 14 ans, sur l'actualité et sur la campagne présidentielle en France. Aujourd'hui, donc, parole de petits 14 ans sur le président américain Donald Trump et la diplomatie française. C'est la rubrique d'Alice Milo hebdomadaire.
Bah moi, premièrement, je comprends pas vraiment comment il a pu être élu, parce qu'il est xénophobe, raciste, sexiste, enfin... Mais c'est vraiment la totale. J'ai plus vraiment envie d'aller aux États-Unis, vu que ça veut dire qu'il y a une grande majorité, enfin pas une majorité, mais au moins la moitié, vu qu'il a réussi à être élu, de personnes qui sont sexistes, racistes, ou alors qui comprennent pas ses intentions et qui vont avoir un choc quand ils vont se rendre compte ce qu'il va faire. J'avais retrouvé des enregistrements où il disait des choses du genre « la femme, elle sert à rien, c'est un objet pour les hommes, etc. » Et moi, je suis quand même assez féministe et ça m'avait choquée. Et je sais que si j'avais un président comme ça, moi, je déménagerais en Alaska.
J'avais entendu, il avait dit qu'il allait mettre des barrières entre le Mexique et les États-Unis, je crois. Moi, j'étais pas d'accord parce qu'en fait, il y avait des immigrés qui venaient aux États-Unis et ils vont empêcher tout ça. Enfin, au lieu de leur trouver des abris et tout ça, il a pas de pitié, il a aucune rancune pour moi. Et moi, je trouve qu'il mérite pas sa place de président. Et je vois pas l'intérêt aussi qu'il fasse les élections présidentielles vu qu'il est déjà milliardaire.
Bah moi les élections présidentielles j'ai considéré un peu comme les élections des délégués
et des délégués de classe tu vois.
Oui, des délégués de classe. Et pour moi Donald Trump c'est le candidat qui s'est présenté pour un peu faire rire l'assistance, pour se faire connaître, sauf qu'au final il s'est retrouvé président des États-Unis sans vraiment s'en rendre compte. Et sauf que maintenant il a le pouvoir et si ça se trouve il va être content, il va pouvoir faire n'importe quoi avec. Je me dis qu'il pourrait très bien y avoir pareil en France avec Marine Le Pen. Et sauf que quand des gens idiots ont le pouvoir, ça peut faire n'importe quoi.
Vous connaissez ce mot climato-sceptique ? Ça veut dire qu'ils doutent du réchauffement climatique.
Mais oui. Non mais comment on peut dire quelque chose comme ça ? Le réchauffement climatique, ça a été prouvé. Tout le temps, ça a été prouvé. Et lui, je sais pas, il veut pas comprendre que ça existe. Et voilà, ça m'énerve.
Moi, personnellement, ça me fait un peu penser à Harry Potter. Parce que il y a les autorités qui veulent pas reconnaître que Voldemort revient. Pourtant, on a des preuves et on a le témoignage de plusieurs personnes, mais ils veulent pas le reconnaître. Mais pourtant, la menace, elle avance. Et à un moment, ce sera trop difficile de l'arrêter.
Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez président de la République française et que vous deviez négocier à l'occasion de grands sommaire avec le président américain, avec Donald Trump, quelle stratégie vous mettriez en place ?
Enfin, il a besoin qu'on lui donne des conseils parce que lui, en fait, il aime trop faire à sa manière sans le consentement des gens.
Donc tu penses que ça pourrait être un bon président s'il était bien conseillé ?
Oui.
Enfin, moi, je pense pas. Je pense qu'il va en faire qu'à sa tête hein, parce que on peut pas changer quelqu'un qui est raciste, homophobe, islamophobe, enfin, je sais pas.
Bah moi, en fait, je pense qu'il faudrait pas le boycotter mais plutôt lui remettre les pieds sur terre parce que là, j'ai l'impression que vu qu'il est à la tête d'une des plus grandes fortunes mondiales, il se prend un peu pour le roi du monde et donc je pense qu'il faudrait au contraire lui remettre les pieds sur terre en lui disant qu'il est juste président des États-Unis et que là dans 4-5 ans ça va s'arrêter et qu'il ferait bien de bien gouverner pour qu'il reste pas dans la mémoire des États-Unis comme un mauvais président.
Ah, laisser une trace quand on est président. Quel président ne rêve pas de cela ? C'est peut-être ce qui pourrait assagir le président américain. Certains analystes l'ont prédit, qu'il allait s'assagir dans le désir de vouloir laisser une trace.
Oui, s'il savait lire, Donald, on lui conseillerait de lire Les identités meurtrières d'Amin Maalouf, où il est question d'apprivoiser la panthère, c'est-à-dire l'identité.
Evelyne Ribert, vous qui êtes sociologue, comment vous recevez la parole des enfants ? À la fois une espèce de fraîcheur comme ça
Oui, moi, j'ai beaucoup apprécié en fait. Oui, il y a une espèce de fraîcheur. Après, il y a une très grande lucidité dans ce qu'ils disent et une très bonne analyse de ce qu'ils disent. Avec leurs référents à eux, je veux dire Harry Potter, etc., par exemple. Mais je veux dire, après, pour penser de façon très, très rigoureuse et très précise.
Oui, Yasmine, vous souhaitiez ajouter quelque chose ?
Non, je pensais à Harry Potter, effectivement, mais Harry Potter, c'est la Bible, hein. C'est quasiment la Bible. Donc ils font une lecture, ils prennent un raccourci, mais on parle bien des vraies choses avec eux.
Yasmine Chouaki, en sol majeur, qui sont vos invités ce week-end?
Alors, écoutez, j'ai le plaisir de recevoir le roi de la pantalonnade, c'est comme ça qu'il se définit. C'est Charles Némès, qui est réalisateur, qui avait notamment réalisé La Tour Montparnasse infernale.
Ah oui.
Voilà, et qui a écrit Pourquoi les coiffeurs il y a quelques années. Il raconte son lien à la judéité. Il a appris qu'il était juif à l'âge de 10 ans. Ses parents venaient de Hongrie avec les catastrophes liées à la Seconde Guerre mondiale qu'on peut deviner. Et pour le protéger, on lui a fait l'économie de cette histoire-là. Il l'a appris à 10 ans et c'est très intéressant de voir sa lecture de cette question-là aujourd'hui. Et puis je reçois également Parker Bilal, c'est un romancier, un auteur de polar anglo-soudanais.
Waouh, quel mélange. Wow. On en a eu des mélanges aujourd'hui dans l'émission, il faudra refaire ça bien sûr. Et vous relaissez la parole, on est désolé, on n'a pas pu d'ailleurs prendre tous les témoignages qui arrivaient à notre standard, mais apparemment, effectivement, chez 7 milliards de voisins, il y a du mélange aussi. Merci à vous, Evelyne Ribert, sociologue à l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain. Vous avez publié, on peut encore le trouver d'ailleurs, sur internet, me semble-t-il, Liberté, égalité, carte d'identité. Les jeunes issus de l'immigration et l'appartenance nationale, c'est paru aux éditions La Découverte. Merci à vous, Yasmine Chouaki, vous revenez quand vous voulez.
Merci.
Vous êtes un peu occupée tout de même avec vos émissions. Et merci à Sophie Ekoué, journaliste franco-togolaise qui publie Sagesse d'Afrique aux éditions Hachette, et à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Néran, Pierre Chaffanjon, Sébastien Salis. Demain, 7 milliards de voisins, reportage d'Alice Milot au cœur des campagnes françaises, mais pour un sujet ô combien universel, comment des agriculteurs ont...